Bonsoir. En Orkivu, des affrontements s'intensifient depuis deux jours entre les FRDC et la rébellion du M23 dans le territoire de Rutshuru, précisément dans le groupement de Jomba. Après des violents combats hier dimanche, des tirs ont été entendus encore ce lundi matin sur les collines surplombant Bunagana. Cette situation provoque des nouveaux déplacements des populations dans la zone, indique Rocha. Et dans un communiqué publié dimanche 22 mai, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, condamne avec la plus grande fermeté les attaques du M23 contre les forces armées de la RDC et les casques bleus de la MONUSCO dans la zone de Changi, territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Bintou Keïta appelle les M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités et à déposer les armes sans condition, conformément aux engagements pris dans le cadre du processus de Nairobi. Quelle analyse faire de ces nouveaux affrontements? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 23 mai 2022. Participe au débat le général Chavanat, commandant des forces de la MONUSCO. Général Chavanat, bonsoir.
Oui, bonjour.
Professeur Jacques Ndjoli, professeur de droit constitutionnel, député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Professeur Jacques Ndjoli, bonsoir.
Bonsoir, madame Kélikouté.
Et Placide Nzilamba, membre de la société civile du Nord Kivu, chef du ressort de Goma et chargé des plaidoyers au Centre international pour la défense des droits de l'homme, la paix et l'environnement. Placide Nzilamba, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Kapi à réagir au thème de ce soir. Élisée, depuis Kichanga, nous jeunes de la chefferie de Bachali, condamnons ces actes ignobles. Nous demandons un soutien total de toute la population qui vous sienne au FRDC et particulièrement les jeunes. Mais nous interpellons également le gouvernement à bien mener ces enquêtes pour découvrir la main noire cachée derrière cette situation. Samuel Aguinze, les Nations Unies ne font que condamner alors que l'action sur terrain est catastrophique. Que fait concrètement la MONUSCO aux côtés des FRDC? À Rutshuru, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Au Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, au deuxième jour des affrontements entre les FRDC et le M23, la cité de Bunagana s'est à nouveau vidée de sa population. Le théâtre des affrontements de ce lundi se déroule sur les collines surplombant cette zone entre la RDC et l'Ouganda et provoque des nouveaux déplacements des populations dans plusieurs localités de la zone, indique Ocha. Bernardin Nyangi pour les détails.
Les détonations d'armes lourdes et légères suivies de bombardements aériens localisés sur la colline de Ruginga, sud-est de Bunagana, près de la frontière avec l'Ouganda, a semé la panique depuis ce lundi matin, poussant nombreux habitants à fuir à nouveau en Ouganda, indiquent les sources civiles à Rutshuru. L'Institut Bunagana, qui devrait accueillir les élèves pour les épreuves hors session de l'examen d'État, a du coup été fermé. Cette reprise des hostilités remonte d'hier dimanche à 4h du matin, et où les forces de la MONUSCO ont dû même intervenir aux côtés des FARDC pour repousser une tentative d'avancée des rebelles M23 vers d'autres localités des groupements voisins de Bouéza et Kisigari. Le porte-parole de Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Njike, rassure que l'armée a un ascendant sur les rebelles qui se concentreraient autour de Ruginga, 7 km au sud-est de Bunagana. Depuis hier, ces affrontements ont poussé beaucoup d'autres personnes à se déplacer des groupements de Jomba et Bouéza vers Utiro et Ntamugenga, indique un rapport de Ocha, publié ce lundi matin. Goma, Bernardin Nyagira, Radio Okapi.
Merci Bernardin pour tous ces détails. Général Chavanat, vous êtes commandant des forces de la MONUSCO. Des affrontements s'intensifient depuis deux jours entre les FRDC et la rébellion du M23 dans le territoire de Rutshuru. Dans un communiqué publié hier dimanche, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a condamné avec la plus grande fermeté les attaques du M23 contre non seulement les forces armées de la RDC, mais également contre les casques bleus de la MONUSCO dans la zone des Changi, territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Avant d'aller dans les détails, dites-nous un peu quelle est la situation en ce moment sur terrain dans le territoire de Rutshuru.
Alors d'abord, bonjour. Je précise simplement que je suis le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, pour laisser place à mon chef, qui est le chef de la force de la MONUSCO. Donc je suis le commandant adjoint. Je ne peux que souligner, réaffirmer, répéter les propos de Madame Bintou Keïta, condamnant avec la plus grande fermeté l'action du M23 dans cette zone. Concernant la situation, évidemment, je ne rentrerai pas dans le détail précis, localité par localité, mais par rapport aux actions du M23, du terrain a été repris par les FRDC et par la MONUSCO en soutien de l'action des FRDC. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que la situation soit définitivement stabilisée, puisqu'il reste des zones et des poches occupées par le M23, des zones à conquérir, pour un objectif qui est assez simple pour la MONUSCO, qui est toujours le même, celui de son mandat, c'est-à-dire la protection des civils et faire en sorte que les populations civiles puissent cesser de se sentir menacées. Et comme vous l'avez bien souligné dans votre reportage, actuellement, certaines sont en train de fuir vers l'est, vers l'Ouganda, et d'autres vers le nord, vers Wanguba. Et donc, la situation a singulièrement progressé depuis l'attaque de dimanche matin. Et nous sommes actuellement dans un rapport de force qui commence à devenir plus favorable au FRDC et à la MONUSCO.
Alors ces populations qui fuient, est-ce qu'elles sont protégées ou escortées par la MONUSCO ?
Alors là, il faudrait étudier ça au cas par cas. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que la MONUSCO, dans sa globalité, se mobilise. La MONUSCO, c'est pas uniquement la force. La force, vous savez, est engagée aux côtés des FRDC. Sa mission, c'est de protéger de deux manières habituelles, qui sont d'une part de servir de zone, de proposer des zones refuges dans les bases de la MONUSCO, et d'autre part, comme vous l'avez dit, d'escorter ponctuellement des personnes qui se déplacent d'un village à un autre. Mais la MONUSCO, c'est également les chefs de bureau dans les grandes localités, comme à Goma, et qui sont chargés de la coordination avec nos partenaires humanitaires. Donc la MONUSCO, c'est à la fois la force en appui des FRDC, mais c'est aussi, je peux vous le dire, et qui sont bien mobilisés, toute cette dimension humanitaire qui nous permet d'avoir une situation très précise sur le terrain de ce que font les populations, des besoins qu'elles ont, des besoins qu'elles expriment par leur attitude, par leurs paroles, et auxquels nous essayons de répondre.
La MONUSCO vient en soutien aux FRDC. Concrètement, c'est quel genre de soutien, Général Chavanat?
Alors, le soutien aux FRDC, il est d'abord permanent. Il est permanent et il est dans tous les domaines, dans toutes les provinces dans lesquelles la MONUSCO est engagée, du nord au sud. Et au jour où, à l'instant où je vous parle, il y a bien sûr les opérations dont on parle contre le M23, mais il y a également dans le nord et vers l'Itouri des actions contre la Codeco, vous le savez. Le soutien avec les FRDC, il se pratique de manière quotidienne par des mécanismes de coordination qui ont été mis en place, qui nous permettent de partager du renseignement, de partager des images et des informations très précises sur les fauteurs de troubles et les ennemis de la paix, et enfin de planifier ensemble des opérations. Donc, à la suite de l'attaque du M23 de dimanche matin, nous avons mis en œuvre, conjointement avec les FRDC, une opération qui était planifiée, parce que ça fait partie de notre travail de soutien et de coordination, où chacun joue son rôle en coordination avec le voisin, donc la MONUSCO avec les FRDC, de manière à permettre la sécurisation de certains axes, la reconquête de sites qui auraient été attaqués et occupés par le M23 en l'occurrence.
Est-ce que la MONUSCO, les forces de la MONUSCO, général Chavanat, participent au combat?
Absolument, les forces de la MONUSCO participent au combat dès lors qu'elles sont prises pour cible, ce qui a été clairement le cas au cours des 48 dernières heures, puisque des bases de la MONUSCO ont été attaquées avec une panoplie de moyens qui vont des petits moyens calibres de munitions, les mortiers, des roquettes RPG, et tout cela appuyé également par des appareils de vision nocturne qui ont permis au M23 d'agir également à la tombée de la nuit, ce qui montre le niveau d'équipement du M23 qui est évidemment soutenu et qui dispose d'équipements qui ne sont pas que des équipements rudimentaires. Donc la MONUSCO a été attaquée sur ses bases, a donc réagi et a fait usage de ses armes, de la panoplie complète de ses armes, en coordination avec la FRDC. Ces armes vont depuis les armes légères jusqu'aux mortiers également, l'artillerie et les hélicoptères d'attaque.
Dans un communiqué, le mouvement du M23 a rejeté ces accusations portées contre elle par la MONUSCO.
Alors écoutez, là, je n'ai aucun doute sur cette question. D'abord, on a un moyen d'être renseigné, on a des informations, on a des images, on a des écoutes radio, on a la panoplie complète des moyens militaires à notre disposition qui nous permettent d'assurer avec certitude l'origine des tirs dont nous avons fait l'objet. Et donc, il n'y a aucun doute sur cette question.
Professeur Jacques Njoli, professeur de droit constitutionnel, vous êtes député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Professeur, quelle analyse vous faites de ces nouveaux affrontements entre les FRDC et le mouvement M23?
Merci beaucoup, madame. Je crois qu'à peu près ces tableaux aussi complets que vient de nous faire le commandant en chef adjoint de la troupe de la MONUSCO, les choses sont vraiment claires. Nous sommes en face de ce que lui appelait de fauteurs de troubles, des ennemis de la paix, mais nous sommes en face d'un mouvement qui, manifestement, a pour mission de déstabiliser l'Est de la République du Congo avec de moyens malheureusement importants et qui opère essentiellement le long de la frontière pour bénéficier, n'est-ce pas, des appuis des pays voisins, et particulièrement le Rwanda et d'autres. Il est dommage que ceux qui parlent de la paix puissent, n'est-ce pas, appuyer un mouvement qui a été défait en 2003, pratiquement, et qui continue, n'est-ce pas, à déranger la paix et la population, empêcher l'organisation des examens d'État, s'attaquer aux troupes des Nations Unies, ce qui constitue un crime grave. Donc il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, empêcher les enfants d'étudier, créer des mouvements de population dans tous les sens et déstabiliser l'ensemble de la région. Je crois que nous devons remercier et féliciter les forces armées de la République du Congo qui opèrent et qui sont entrées, comme l'a dit le général, de reprendre le terrain. Remercier la MONUC pour cet appui sans équivoque, aussi bien en renseignement, mais aussi en appui aérien et artillerie. Et aussi demander clairement aux frères qui sont engagés, notamment au Kenya, qui a engagé, n'est-ce pas, sa responsabilité pour que les États voisins cessent, n'est-ce pas, d'appuyer un mouvement qui manifestement n'a pas d'ambition politique, sauf créer les conditions de déstabilisation de la RDC. Il faut qu'on sorte, n'est-ce pas, de cette opacité, de cette ambiguïté, pour demander au Rwanda et même à l'Ouganda, qui ont pris la charge de gérer cette bandit, écoutez, il faut mettre fin. Comment un mouvement armé, soi-disant rebelle, peut disposer des moyens aussi importants, des mortiers, des lance-roquettes, et même de matériel d'attaque des visions nocturnes. C'est inadmissible, c'est un crime contre la paix, et je crois que la MONUSCO, qui a pris aujourd'hui, une fois davantage l'état des lieux de la situation, mais il faut que les Rwanda, l'Ouganda, qui sont derrière ces bandits, soient condamnés et soient mis devant leurs responsabilités. Et je crois que les FARDC, qui est la responsabilité première dans la restauration de la paix, doit être soutenue avec la MONUSCO pour que finalement ces collines de Tianzhou, de Runyoni et de Sambinyo soient nettoyées et que derrière les M23, tout comme l'ADEF, qui sont des mouvements ougandais, qui rentrent chez eux et n'ont plus continué à déranger les paisibles citoyens. On en a marre, ça fait 20 ans que ça dure, le Congo a besoin de paix, a droit à la paix, et ces pays-là doivent nous laisser en paix, et ces bandits, ces terroristes de M23 doivent être mis hors d'état de nuire, et je crois que ça sera justice, et ça sera la paix dans la région. Il faut sortir de l'hypocrisie, et je suis satisfait du langage militaire du commandant qui même de madame Bintou, qui finalement est sortie de ce langage ambigu des diplomates pour citer le M23 comme un mouvement de fauteur de désordre dans cette région. Il faut que ça cesse.
Professeur Chantoli,
de dire qu'il y a des troupes de FDLR, on connaît ces discours depuis plus de 20 ans. Ceux qui utilisent l'argument d'FDLR, ils n'ont qu'à récupérer les FDLR chez eux au Rwanda et laisser le peuple congolais en paix.
Professeur Jacques Ndjoli
et aux troupes de la MONUSCO.
Professeur Jacques Ndjoli, les affrontements repris dans le territoire de Rutshuru, entre-temps, il y a ce processus de Nairobi qui a réuni les groupes armés de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu pour trouver des solutions et mettre fin à cette situation d'insécurité dans la partie est de la RDC. Le gouvernement doit-il poursuivre avec ce processus ou carrément il faut arrêter avec ça et combattre, neutraliser ces groupes armés qui, malgré la bonne volonté du gouvernement, continuent de faire du mal à la population dans l'est du pays?
Mais vous avez dit la bonne volonté, effectivement. La première réponse, la réponse la plus efficace, elle est militaire. Et c'est que la MONUSCO et les FARDC sont en train d'administrer. Donc il faut une efficacité, un appui sérieux, comme ça s'est fait maintenant, pour détruire, n'est-ce pas, ces groupes armés réfractaires qui a été défait par les FARDC, qui s'est réfugié au Rwanda et en Ouganda et qui s'est refait en force. Donc la dimension militaire est importante, mais nous ne pouvons pas exclure la dimension diplomatique, et nous croyons qu'avec la présence du Kenya qui vient, n'est-ce pas, dans les cadres du processus de paix des pays de l'Afrique de l'Est, il faudra que chacun soit mis devant ses responsabilités. Les Rwanda, l'Ouganda, et aujourd'hui nous nous félicitons de la présence du chef de l'État au Burundi. Là aussi, le groupe qui opère vers Minembwe, les Red Tabar et autres là, doivent être écrasés et chaque pays doit assumer ses responsabilités. À commencer par la République démocratique du Congo, qui ne peut pas faire de son territoire un champ de tir de tous ces bandits armés qui viennent parce que nous n'avons pas toujours mis la capacité, le moyen, la volonté de nettoyer cette partie du territoire avec un outil militaire totalement efficace. Donc nous disons action militaire sans ambiguïté avec l'appui aérien, artillerie de la MONUSCO, et j'espère des autres pays africains qui ont compris que il y a des États qui ont intérêt à ce que les désordres s'installent au Congo pour continuer les opérations de pillage. On a même entendu un chef d'État qui souhaite que le Congo devienne le Sud-Soudan. Eh bien, le Congo ne deviendra pas le Sud-Soudan, mais chaque pays doit assumer. Les ADF, ce sont des Ougandais. les M23, ce sont des Rwandais qui doivent rentrer au Rwanda avec les FDLR et laisser les Congolais régler les problèmes avec les Codeco, que nous devons aussi détruire comme bandits et lancer en même temps une opération DDR. Et sur fond de cela, une action diplomatique toujours bienvenue, mais que ça ne soit pas une distraction de plus de ceux qui manifestement arment ces bandits-là.
Placide Nzilamba, membre de la société civile du Nord Kivu, vous êtes chef du ressort de Goma et chargé des plaidoyers au Centre international pour la défense des droits de l'homme, la paix et l'environnement. Quelle lecture vous faites de ces nouveaux affrontements entre les FRDC et le mouvement rebelle M23?
Je vais m'acquitter d'abord du devoir de saluer les co-débatteurs ainsi que les auditeurs de la radio Okapi et préciser ici que si aujourd'hui la guerre a repris surface et si elle continue, c'est parce tout simplement la stratégie du M23 reste la même depuis qu'il a été RCD, CNDP et aujourd'hui M23. Parce qu'il faut bien rentrer dans les faits historiques. C'est que la guerre qui est menée a pour cause la recherche de l'identité, la recherche de la terre, la recherche des ressources naturel et en fait la recherche du pouvoir. Et alors, avec le processus de Nairobi, apparemment le M23 ne se sent pas encore soutirer un gros morceau de ce qui se passe et il continue maintenant les affrontements pour essayer de faire parler de lui et de se tailler une place au sein d'autres groupes armés, une place considérable au sein d'autres groupes armés. C'est pourquoi nous sommes inscrits à faux contre ce dialogue de Nairobi. Notre gouvernement ne pouvait plus aller encore sur ce chemin-là. Parce que tout simplement, l'expérience démontre que le chemin de dialogue avec le groupe armé n'a pas payé et a contribué plus à exacerber la crise, tout en intégrant des bandits au sein de l'armée, au sein de la police, au sein de notre administration. Donc, pour nous ici, c'est dire que ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui rentre dans cette ligne-là et nous pensons que notre gouvernement devait avoir un autre regard. Un regard d'abord de pouvoir consolider l'administration locale, regard d'abord de pouvoir continuer avec la réforme de l'armée et de tous les services de sécurité, regard aussi de pouvoir renforcer le système judiciaire congolais afin de réprimer les crimes qui sont commis par certains qui se croient être au-dessus de la loi parce tout simplement ils ont bénéficié des allégeances politiques. Donc la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, à ce moment même, c'est déplorable parce qu'encore notre population de Tchengerero et de Bunagana vient de se déplacer vers une partie vers l'Ouganda et une autre vers Rwanguba et d'autres progressent vers Burayi et Rutshuru Centre. Donc c'est déplorable. Mais nous ne pouvons pas passer sous silence cet appui de la MONUSCO, d'autant plus qu'hier matin, tôt le matin, le M23 a attaqué à Rubona, c'est une colline qui est à Vachangi, c'est un groupement Bweza. Et vite, l'armée et la MONUSCO, les casques bleus, ont repris le défi et ils les ont chassés à ce moment. D'après les informations que nous venons de recueillir, l'armée contrôle déjà Chanzu et Runyoni et l'ennemi s'est réfugié déjà dans le parc national de Virunga, en un lieu qu'on appelle Kabonero, c'est là où il est en train de tirer des bombes sur Bunagana. Donc, à notre niveau, c'est dire que cette force devait s'accentuer sur l'ennemi et lui permettre de se rendre ou soit de retourner de là où il est venu parce que tout simplement, on ne peut pas comprendre qu'à la limite avec un autre État qui a signé l'accord cadre d'Addis Abeba pour dire cet État ne servira plus de bastion, de base arrière pour des rébellions qui attaquent la République démocratique du Congo, mais des bandits continuent à sévir et ils fuient, ils rentrent dans cet État-là et on ne voit rien comme réaction pour aider à stabiliser les frontières de la République démocratique du Congo. C'est inacceptable et nous pensons que le chef de l'État de la République démocratique du Congo devait avoir un langage sérieux, sincère et sans complaisance avec le gouvernement rwandais pour leur signifier que leur interventionnisme au sein de groupes armés ici à l'est de la République lasse.
Il y a cet auditeur, Gabriel Ekwalanga, qui pense que cette situation est due à l'exclusion du M23 du dialogue de Nairobi. Le gouvernement devrait approcher ces rebelles afin de négocier véritablement avec eux. L'État congolais a jugé mieux de les chasser en cours des dialogues. Voilà maintenant la population de Rutshuru commence à payer le prix de l'imprudence de nos dirigeants.
Nous devons dire ici et réaffirmer que nous ne sommes pas, en tout cas pour ce dialogue-là, qui est en train de s'organiser à Nairobi. D'autant plus que le gouvernement venait d'initier le programme PDDRCS qui devait prendre en charge la question des combattants. Alors, on ne sait pas par quelle magie, par quelle chirurgie politique, on est parvenu à créer encore un autre dialogue à Nairobi. Et nous, il faut dire que le M23 n'aura jamais raison de faire fuir les Congolais de leurs terres, de leurs champs, de leurs habitations, parce que tout simplement, on réclame être intégré dans l'armée, dans l'administration. Non. Et nous devons ici dire au notre gouvernement, au premier ministre et au président de la République, que pas question d'intégrer un quelconque combattant de groupe armé dans les forces armées, dans la police et au sein de l'administration. Ça, nous l'avons déjà refusé. Et nous pensons que la solution qui est prise, la solution militaire, est parmi des solutions efficaces. Oui, aussi, en y associant le programme PDDRCS pour d'autres combattants qui se sont déjà rendus et qui attendent pendant plus de 2 ans aujourd'hui d'être réinsérés dans leur famille ou dans leurs entités respectives. Donc l'auditeur devait en tout cas se calmer et nous pensons que l'armée se comporte bien sur le terrain et même avec l'appui de la MONUSCO, nous viendrons à bout rapidement et nos populations vont rentrer dans leurs entités respectives.
Général Chavanat, il y a la chef de la MONUSCO qui appelle les M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités et à déposer les armes sans condition, conformément aux engagements pris dans le cadre du processus de Nairobi. Pensez-vous que cet appel sera suivi par ce mouvement rebelle?
Alors, je ne sais pas s'il sera suivi, mais je le souhaite vivement. Parce que vous savez, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est très important, surtout par les temps qui courent, c'est la question de l'information, ou plus exactement de la désinformation. Puisque la guerre de l'information est le corollaire des affrontements sur le terrain, et on voit bien qu'un mouvement comme le M23, mais aussi d'autres mouvements, souvent, usent de cet artifice. Hein, les ennemis de la paix utilisent toujours un stratagème de désinformation, de manipulation des esprits et de diffamation. Et par exemple, en laissant croire que la MONUSCO soit ne fait rien et est attentiste, soit pire qu'elle sert les intérêts de tel ou tel groupe armé, mais aussi en cherchant à diviser les forces de sécurité nationale, donc les FRDC et la MONUSCO, en laissant croire par exemple que la MONUSCO travaillerait avec des régiments qui intégreraient des membres de groupes armés, alors que nous sommes plus associés et plus coordonnés que jamais de manière très méthodique MONUSCO et FRDC. Donc la ficelle est un peu trop grosse et je pense qu'il ne faut pas laisser dire et laisser croire ce type de mauvaises informations.
D'où l'importance de communiquer, général Chavanat.
Absolument, absolument. D'où l'importance de communiquer sur la base de faits, sur la base de témoignages qui sont vraiment fondés et je pense que nous avons tous les instruments pour le faire.
Professeur Jacques Joly, en parlant de communication, on a l'impression que les FRDC communiquent moins, même lorsqu'elles gagnent du terrain. Pourquoi, selon vous, est-ce une consigne dans l'armée, alors qu'on voit, comme l'a dit le général Chavanat, les groupes armés communiquer à tout moment, manipuler l'opinion avec des communiqués? Pourquoi, selon vous, il y a ce manque de communication du côté des FRDC?
Madame, je crois d'abord que, merci beaucoup pour la question, les FRDC ont du travail opérationnel à faire. Si vous prenez toute la partie orientale de la République, les FRDC sont engagés au nord, au niveau des Ituri, avec tous ces groupes armés, Codeco, Tinea, Kilima, Zaïre, chaque jour. Et là, il y a un porte-parole qui est du côté des Ituri. Au niveau de la zone d'engagement actuelle de Rutshuru Beni, il y a un officier subalterne qui est chargé de la communication, il y a un porte-parole qui est là, mais il faudra dire aussi que des travaux est beaucoup plus opérationnel que de manipulation, comme l'a dit le général. Ces ennemis de la paix cachent derrière des mots MDP, M23 et autres, ben, ils sont démasqués et ce n'est pas au FARDC de continuer à faire ce travail. C'est aussi le travail que vous, journalistes, nous, Congolais, nous tous, nous devons avoir le même langage. C'est pas un travail strictement de FARDC. Je remercie les collègues co-débatteurs qui nous éclairent sur la situation, sur les enjeux dont nous devons tous impliquer pour savoir qu'il y a une volonté de statocide, il y a une volonté de fragiliser notre pays, il y a une volonté de nous piller par ces ennemis qui croient que de la faiblesse du Congo, il peut y avoir la force de tel ou tel État. Et c'est, vous avez raison de dire que il y a un travail de communication qui doit être fait. Lorsqu'il y a des pays qui se présentent à l'extérieur comme des pays de paix, qui se permettent même de donner le nom de leur pays sur les équipementiers, alors que ces pays sont en train de se livrer à des opérations contre le droit international, ces pays sont en train de pousser des bandits pour s'attaquer, n'est-ce pas, aux forces des Nations Unies. Eh bien, je crois qu'il y a un grand travail. S'il y a des États qui sont prêts à envoyer leurs demandeurs d'asile dans ces pays, mais il y a un travail de fond, aussi bien au plan local, au plan national, au plan international, pour, n'est-ce pas, débusquer ces ennemis de la paix. Ces États qui donnent refuge, qui équipent, madame, de bandits, et c'est un travail qui est collectif de toute la nation, et ce n'est pas un travail strictement du FARDC qui doivent faire un travail opérationnel, et ces FARDC qui ont besoin de la réforme, qui ont besoin de l'équipement, qui ont besoin de soutien de toute la nation.
Placide Ntilamba, votre point de vue sur l'aspect communication.
Il faut dire ici que depuis bien longtemps, le CNDP, RCD, aujourd'hui M23, ont en tout cas développé une capacité communicationnelle très impressionnante. Mais à notre niveau, c'est dire il faut quand même avoir aussi cette possibilité de pouvoir remonter la communication des forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que la communication a plus de l'ampleur à travers les moyens dont on est en train d'utiliser, à travers les canaux qu'on utilise. Et que donc, si aujourd'hui la communication peut être seulement à la radio et à la télé, moi je pense que le FARDC devait aussi opter pour d'autres canaux de communication plus efficaces pour faire relayer le vrai message de la réalité des terrains. Mais aussi, il y a aussi des comme on l'a dit, on est en face d'un mouvement qui est appuyé par des États, parce que ces États-là ne sont pas en guerre, ils ont le temps de se concentrer et peaufiner des stratégies et mettre même leur génie pour la communication d'un groupe armé. C'est pourquoi vous trouvez que c'est vraiment compliqué pour notre armée de communiquer assez intensement. Donc ici, c'est appelé le ministre national, et même le ministre national de la communication, même la direction générale des FARDC, des CIFA, à venir au Nord Kivu, de ne pas rester à Kinshasa. Quand le pays est agressé, ça ne sert à rien de rester dans des bureaux à Kinshasa. Tous devaient venir rester ici et nous envoyer une communication exacte à toute la population congolaise. Démontrer que cette guerre n'est pas une petite guerre, c'est une guerre aussi qui a l'ampleur d'une dimension internationale et même régionale. Et que donc, il faille que le gouvernement prenne ça au sérieux et envoie certains de ses ministres ici au Nord Kivu pour suivre de près cette situation. Je crois en 2013, M23 avait été vaincu militairement par nos forces armées de la République démocratique du Congo, encore avec l'appui de la MONUSCO. Nous pensons que cet exploit pourrait se rééditer cette fois-ci pour en finir une fois pour toutes pour ceux qui nous guettent maintenant là. Et que donc la communication est d'une importance capitale pour la réussite de toutes les opérations qui sont menées ici, parce que le M23 en est habitué, et vous êtes en train de voir, ils ont élaboré des communiqués en train de précéder l'appui de la MONUSCO pour limiter l'appui de la MONUSCO. Mais nous nous réjouissons parce que la MONUSCO, à travers ses organes, n'est pas restée distraite. Elle a pris le devant et a appuyé les forces armées. Nous pensons qu'il faut une harmonisation communicationnelle entre les casques bleus et les FARDC, accompagnés aussi de la radio-télévision nationale et le ministère de la communication, pour que nous ayons quand même une communication efficace.
Merci, on va lire quelques réactions des auditeurs qui sont très nombreux à nous écrire. Alphonse Tchefou à Kinshasa, c'est que fait le M23, c'est un moyen pour lui de faire pression et faire sentir à l'État congolais qu'il faut revenir à la table des discussions afin de lui imposer son cahier des charges. Mais je me demande quel est le travail de la MONUSCO aux côtés des FARDC et pourquoi ne combat pas aussi les rebelles du M23 et se limite à la dénonciation et à condamner sans combattre. Nous demandons à l'État congolais de s'assumer car il s'agit de sa souveraineté qui est menacée et de sa population qui est tuée, violée, massacrée, vilipendée sur son propre sol. Encourageons les FARDC à poursuivre la traque des CM23 et tant d'autres rébellions afin d'imposer la paix dans cette région. Général Chavanat, commandant adjoint des forces de la MONUSCO, plusieurs experts pensent que la solution à ce problème, à cette situation d'insécurité dans la partie orientale de la RDC doit être globale, c'est-à-dire politique, diplomatique et militaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, vous avez raison de poser la question. Bien évidemment, la situation, la solution n'est pas que sécuritaire et ne pas que militaire. Si elle n'était que militaire, ça serait poser un pansement sur une plaie béante. Elle est évidemment globale. Elle est d'abord politique. Elle est aussi économique, puisqu'il s'agit d'aborder la question de l'exploitation des ressources, notamment. Elle est politique, elle est nationale et elle est régionale. La force de la MONUSCO d'une part, surtout sur la partie aide humanitaire, mais la force de la MONUSCO au plan sécuritaire sont là pour faciliter le travail. Et j'ai entendu dans le témoignage précédent une question relative à l'action de la MONUSCO. Que fait la MONUSCO si ce n'est dénoncer? Les événements de ces 48 dernières heures montrent précisément que la MONUSCO ne fait pas que dénoncer, mais elle agit. Alors il y a une action qui n'est pas visible tous les jours et qui est pourtant faite en profondeur et qui consiste à aider sur le terrain avec des acteurs civils et militaires à assister dans le domaine humanitaire les populations. Il y a aussi le fait de la présence de la MONUSCO, des patrouilles dont j'ai parlé tout à l'heure et qui permettent dans le silence de protéger les populations civiles. Et puis il y a l'action sur le terrain comme on vient de le témoigner au cours de ces 48 dernières heures. Donc on ne peut pas dire que la MONUSCO soit inactive. Ce qui est certain, c'est que la solution, elle n'est pas que militaire et loin de là. Elle est bien globale et je peux vous garantir que l'ensemble des membres de la MONUSCO, qu'ils soient civils ou militaires, et les partenaires de l'ONU, sont tous mobilisés pour la recherche de cette paix et de cette stabilité.
Évangéliste Soumaïli Patrick, les groupes armés sont connus et bien identifiés. L'État doit donner quoi se défendre à nos soldats pour mieux traquer l'ennemi. Il faut éviter de négocier avec ses ennemis. Le M23 veut à tout prix imposer ses besoins à tout un pays. C'est inconcevable. Évitons de bercer l'ennemi. Le mouvement est soutenu par les pays voisins. C'est connu de tous. Et la mission de ces pays-là, c'est de contrôler la RDC. Placide Nzilamba, nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour en finir avec cette situation?
Il faut dire que la première des solutions, c'est que le gouvernement congolais devait arrêter de dialoguer avec les groupes armés. Parce que l'erreur commise avec les dialogues passés, les CNDP avaient eu un accord particulier avec le gouvernement congolais. Et c'est cet accord qui a fait naître ce qu'on appelle les M23 aujourd'hui. Donc, continuer avec les accords, c'est infiltrer l'armée, c'est infiltrer la police, c'est infiltrer l'administration. Donc, pas question d'accord, pas question d'intégration des groupes armés au sein de l'armée. Pour cette situation aussi, il faut dire que le gouvernement devait se mobiliser avec ses partenaires pour soutenir, donner assez de moyens aux forces armées de la République afin qu'elles parviennent à garantir l'intégrité du territoire national. Aussi, avec la MONUSCO, nous pensons que ce que la MONUSCO vient de démontrer, dans les 48 heures, oui, nous venons de recevoir de bons témoignages, des casques bleus, même des matériels, des hélicoptères qui ont appuyé ce matin les FRDC pour conquérir Runyoni, nous pensons que cette là devait continuer sur tous les fronts qui existent ici en province Nord Kivu. Parce que pour nous, nous continuons à regretter que les FAIB avaient été mis en place pour cette cause-là de traquer les groupes armés, avec ou sans les FRDC. Mais nous sommes au regret parfois de constater que les FRDC sont seuls abandonnés dans certaines circonstances. Et que donc, parfois, nous on suggère au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Union africaine, à CIRGL et les autres, de dire que les FAIB devaient quitter sous la responsabilité de la MONUSCO et être autonome, parce qu'on comprend que la responsabilité de la MONUSCO devient un carcan dans lequel les FAIB ne réussit pas à opérer rapidement devant des circonstances sécuritaires qui écument notre zone. Donc, je crois que peut-être d'autres innovations continuera, et nous nous appelons d'ailleurs le président de la République à organiser rapidement la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège et pouvoir lui présenter tout le problème sécuritaire qu'il y a et les pistes de solution.
Merci Placide Nzilamba. Une dernière réaction avant de conclure cette émission. Nicodème Limoukenou depuis Kolwezi. Je commence par les responsables de la MONUSCO jusqu'à quand ces derniers demanderont au M23 de cesser avec ces atrocités. Il n'est pas admissible de voir ceux qui prétendent donner un coup de main au FRDC se limiter à la parole devant l'ennemi. Et du côté congolais, il y a beaucoup de complaisance dans le traitement de ce dossier, sachant qu'il y a toute une chaîne de ceux qui s'enrichissent derrière ces actes de vandalisme. Il faut des mesures sérieuses pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi au lieu de chercher à aveugler la population avec les soi-disant accords qui ne font que remuer le couteau dans la plaie. Où en sommes-nous avec l'état des sièges? Beaucoup de trahisons dans ce pays où plusieurs sont caractérisés par l'égoïsme. On en a marre. Général Chavanat, votre conclusion, qu'est-ce que vous dites à tous ces Congolais qui se posent des questions sur l'action de la MONUSCO, qui pensent que la MONUSCO ne fait rien aux côtés des FRDC?
Écoutez, je vais dire que je me mets évidemment à la place des populations qui sont frappées par le malheur, par la violence qui est endémique depuis des années et des années, et je comprends les interrogations qui se posent, bien sûr. Maintenant, la MONUSCO, elle n'est pas inactive. La MONUSCO, elle est aux côtés du peuple congolais, elle est aux côtés des institutions congolaises, et elle travaille de manière étroite, et je peux vous dire que les progrès sont constants dans la coordination et dans l'action commune avec les FRDC. J'entendais parler à l'instant de la FAIB et des questions sur la FAIB qui est en fait la brigade d'intervention de la force qui a été créée il y a quelques années et qui a petit à petit augmenté ses moyens. C'est faux de dire que la FIB n'est pas à la main de la MONUSCO, la FIB intervient et aujourd'hui dans la zone d'action contre le M23, la FIB est très fortement engagée. Donc il y a des unités de réaction rapide appartenant à la FIB qui sont aujourd'hui engagées et qui ont délivré des feux au cours de ces 48 dernières heures. La FIB est également engagée dans la région de Beni et au nord de Beni. Donc ce que je voudrais dire simplement, c'est que bien sûr la situation reste très difficile, les volatiles, les dangereuses, et pourtant il y a des lueurs d'espoir, il y a des axes de progrès, et tout est fait aujourd'hui pour travailler main dans la main la MONUSCO et les FRDC. Personne ne reste l'arme au pied, et la MONUSCO est fidèle à son mandat qui est la protection des civils et le soutien aux institutions congolaises et en particulier au FRDC.
Merci Général Chavanat. Professeur Jacques Njoli, à Rémi Lokong depuis Kisangani, qui pense qu'il n'y a pas seulement les pays voisins qui sont complices du mouvement M23, il y a également la complicité de certains hauts cadres de l'armée et de l'administration publique.
Oui, madame, c'est justement, je comprends la préoccupation de notre compatriote, mais c'est justement face à cette infiltration, cette fragilisation de notre armée par des différentes opérations de brassage, des mixages, des négociations avec ces groupes armés où ces pays étrangers profitent pour déverser leurs espions et agents dans notre armée. Et c'est pourquoi, tout en étant, n'est-ce pas, circonspect et prudent sur les négociations, il doit être attendu qu'un rebelle, quelqu'un qui a pris des armes contre son pays, notamment dont les identités restent douteuses ne doivent plus entrer dans l'armée. Lorsque l'M23, qui s'est déjà transformé en parti politique en 2013, aujourd'hui nous sommes dans des négociations de Nairobi, eh ben, on ne peut plus avoir des intégrations collectives massives. Ces rebelles, très souvent des ennemis déguisés dans l'armée, parce que nous risquons d'avoir, nous avons une armée où il y a des généraux à loyauté discutable, et même dans les troupes qui sont déployées le long de cette frontière de Rutshuru et autres, sont des anciens du CNDP et de M23, dont l'efficacité et la loyauté posent problème. Donc, la haute administration et surtout l'armée a pu être infiltrée à cause de ces négociations avec les CNDP et autres mouvements armés. Il est important qu'on arrête ces genres de pratiques et que il y ait un travail de vetting, de nettoyage, pour que nous ayons une armée nationale loyale, capable de protéger sa population, non plus une armée de personnes qui étaient hier des éléments des armées étrangères qui viennent chez nous et qui servent, n'est-ce pas, de cinquième colonne à ces États-là et qui ont pour mission de déstabiliser notre pays et notre armée.
Merci, professeur Jacques Joly. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. La mise en onde était assurée par Bob Landou. Présentation et coordination, Kéline Couté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.